Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Cher Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Donc nous voyons pour cette nouvelle édition de cet éclairage de l'actualité internationale. En fait, nous ne sommes pas vus durant cet été parce que tu étais très absent de Paris dans de nombreux voyages, notamment en Asie et en Russie.
Puis, et aux États-Unis.
Et aux États-Unis. Et puis tu es revenu pour repartir aussitôt pour présider à Marrakech la troisième édition de la World Policy Conference où tu as eu évidemment de très nombreux interlocuteurs politiques et diplomatiques et évidemment un éclairage supplémentaire sur l'actualité qui nous occupe aujourd'hui. Cette actualité, elle est très chargée puisque nous sommes en ce moment même au lendemain des élections de mid-term aux États-Unis, où Barack Obama a perdu la majorité à la Chambre des représentants et de manière forte. Nous nous trouvons également quelques jours après la conclusion d'un accord franco-britannique sur la défense, et ça me paraît être un accord historique, même si le mot ne peut pas être toujours employé de manière banale, mais tout de même, nous avançons dans le domaine nucléaire. Troisième point, la visite officielle du président Hu Jintao à Paris, qui rétablit d'une certaine façon le bon climat des relations entre la France et la Chine. Donc trois sujets très chargés que nous allons essayer de détailler. Il n'est pas rare, c'est même plutôt l'habitude, que le président des États-Unis élu deux années plus tôt ait quelques soucis avec les élections de mi-mandat. Cela dit, pour Barack Obama, qui avait été élu dans un mouvement extraordinaire il y a deux ans, il perd également ses élections de mi-mandat de manière forte. Je dois dire que si l'on réécoute tes interventions au cours de nos émissions précédentes, il est sûr que tu avais bien laissé entendre le désamour qui s'installait dans l'opinion publique américaine avec Barack Obama et son équipe. Ceci s'est traduit très exactement dans les élections que nous venons de vivre. Alors, je voudrais qu'ensemble, nous essayions d'analyser ce résultat et naturellement d'en tirer quelques perspectives pour l'avenir, parce que c'est ça qui nous intéresse, l'avenir diplomatique, stratégique, mais aussi, bien entendu, l'avenir de l'économie mondiale.
En effet, une telle analyse s'impose aujourd'hui. Alors, on peut regarder les choses sous différents angles. Si on regarde les choses d'une manière un peu terre à terre, on dira qu'en effet, c'est assez banal finalement. Et d'ailleurs, le pire a été évité puisqu'il a préservé la majorité au Sénat. Et je crois qu'il faut tout de même souligner ce point. Si on regarde avec un petit peu plus de discrimination, ce qui est frappant à l'heure actuelle, c'est la polarisation de la vie politique américaine. C'est-à-dire qu'il y a une division très forte au sein du Parti républicain, avec le phénomène des Tea Parties, mais ça veut dire qu'il y a un approfondissement de ce mouvement, d'ailleurs qui dure depuis très longtemps, des néo-conservateurs, et ça, mais ça va encore plus loin, et davantage vers le populisme. Mais ce qu'on ne dit peut-être pas suffisamment, c'est qu'il y a aussi une division du côté des démocrates. C'est-à-dire qu'il y a au sein des démocrates ceux qui sont fidèles au président qu'ils ont élu, à leur président, à Obama, mais on sent également qu'il y a une certaine radicalisation au sein du Parti démocrate. Et en toile de fond, un point que je crois d'ailleurs avoir souligné déjà dans nos entretiens antérieurs, qui est une véritable haine, qui est tout de même très forte aux États-Unis à l'encontre d'Obama et qui s'exprime parfois de façon qui sont à la limite, il faut dire, du racisme. Donc on a un ensemble là qui, lui, est tout de même assez distinct, par exemple, de la situation de Clinton au milieu de son premier mandat. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais le plus intéressant, c'est peut-être le troisième niveau. Et le troisième niveau, c'est que les États-Unis sont en désarroi à l'heure actuelle. Et les États-Unis sont en désarroi aussi bien sur le plan de la politique économique, évidemment, enfin disons sur le plan de l'économie tout court, cela est évident. Et cette difficulté qu'il y a à relancer la machine, cette difficulté surtout qu'il y a à vaincre le chômage, et on souligne souvent que le problème aux États-Unis, c'est qu'un des taux de chômage approchant les 10%, c'est beaucoup plus grave qu'en Europe, en raison justement des insuffisances du système de protection sociale, etc. Mais désarroi également au niveau de la politique extérieure, car il faut voir que Depuis l'élection d'Obama, la situation sur le plan extérieur ne s'est pas améliorée, tant s'en faut. Et je conclurai ces premières remarques en disant que tout cela reflète quoi ? Tout cela reflète la possibilité d'une phase de déclin américain. En contrepartie de ce déclin, naturellement, il y a la montée de l'Asie et particulièrement de la Chine, qui ne se maintiendra peut-être pas pendant 30 ans, il y aura peut-être des accidents de parcours, mais en tout cas, pour le moment, cette perspective est là. Et je pense qu'au fond, de même, les Américains doutent de même. Et je crois que, pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, la question peut se poser, en effet, d'une perte de la primauté des États-Unis dans un avenir qui n'est certes pas pour demain, mais ça peut être dans 20 ou 30 ans. Et de ce point de vue-là, la comparaison avec l'histoire de la Grande-Bretagne entre la fin du 19e siècle et jusqu'à, disons, la dévaluation de la livre sterling de 1931, qui a été à l'époque considéré comme un véritable coup de tonnerre dans le monde international de ce moment-là, tout ça, ce déclin de la Grande-Bretagne s'est étalé, disons, sur une bonne cinquantaine d'années. Et là, on peut se demander, en effet, si on n'est pas au début de quelque chose de très profond.
Alors ça, évidemment, c'est absolument passionnant comme vision et comme perspective. Je propose que nous revenions un instant sur la situation politique des deux années qui viennent pour ce qui concerne les États-Unis et aussi des conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'économie mondiale. Donc, Barack Obama se trouve avec un congrès divisé en situation de cohabitation. Il conserve une courte, très courte majorité au Sénat, mais qui ne lui permet pas d'avoir les deux tiers pour les réformes les plus importantes. Et il a donc une majorité hostile, républicaine, à la Chambre des représentants. En sachant, en effet, et cela tu l'as souligné, que nous avons une bipolarisation d'autant plus forte qu'il y a d'une part chez les républicains l'influence des Tea Parties et d'autre part chez les démocrates également une aile radicale. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier pour les deux ans qui viennent ? Il y a une hypothèse qui est le blocage, une sorte de blocage entre les républicains, les démocrates extrémistes et Barack Obama et l'administration donc démocrate. Il y a une autre hypothèse qui est que Barack Obama n'étant plus en mesure de faire avancer un certain nombre de ses projets teinté d'interventionnisme, finalement, l'économie américaine reparte plus vite parce que, précisément, il n'y aurait pas d'action de l'État. Et donc, si cela était le cas dans deux ans, Barack Obama, paradoxalement, se trouverait dans une situation plus confortable pour une campagne de réélection vis-à-vis des républicains qu'il ne l'est en ce moment.
Alors, en effet, d'abord, tout va se jouer, en tout cas beaucoup va se jouer pour 2012. Sur l'évolution de la situation économique interne aux États-Unis. Et là, en effet, comme tu le dis, plusieurs hypothèses sont possibles, mais il est trop tôt pour en juger. Par exemple, ce plan d'injection massive à nouveau de 600, je crois, milliards de dollars, personnellement, me préoccupe. Et je suis assez inquiet, je dois le dire, de voir beaucoup d'économistes ayant pignon sur rue recommander presque ou souhaiter presque le retour de l'inflation aux États-Unis. Quand on connaît un petit peu l'histoire économique des dernières décennies, une telle attitude a de quoi, en effet, inquiéter. Mais enfin, disons qu'il y a une très grande incertitude là-dessus. Je pense que si, quelle qu'en soit la raison, l'économie américaine parvient à redécoller, ou plus précisément, le taux de chômage a diminué, parce qu'il faut insister là-dessus, il y a une croissance aux États-Unis. Elle est faible, mais elle existe. La difficulté, c'est que le chômage ne diminue pas. Si par conséquent on a une reprise se traduisant par une diminution du chômage, cela favorisera sûrement Obama. Et de toute façon, pour le moment, on ne voit pas de candidat démocrate, en tout cas, qui puisse le contester. Je doute que l'on viole la tradition dans les deux années qui viennent. Et évidemment, du point de vue des républicains, on va voir comment les choses se présentent dès maintenant. D'ailleurs, ça va commencer à se dessiner maintenant, mais ça ne va pas être simple, précisément à cause de la division dont nous parlions à l'instant. Donc, il y a énormément d'incertitudes, mais là aussi, en toile de fond, et si on cherche à voir la question essentielle derrière ce dont nous parlons à l'instant, cette question, c'est est-ce que la crise actuelle est de nature à remettre en question la tradition politique américaine ? La tradition politique américaine, c'est tout de même que les midterm elections, bon, en général, il y a des corrections. Ensuite, c'est une tradition de compromis, ce sont des cohabitations de compromis à l'anglo-saxonne. On cherche des compromis sur les différents dossiers. Tu as employé tout à l'heure le mot de radicalisation et de blocage. Ce mot n'appartient pas à la tradition politique américaine. Et donc, en effet, la question, c'est est-ce que là, on va avoir quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'on va voir apparaître un phénomène sans précédent, finalement, dans l'histoire des États-Unis ? Et d'ailleurs, les premières paroles d'Obama à ce sujet sont intéressantes parce que
Il le recherche.
Il le recherche, mais en insistant d'une manière qui n'est pas habituelle, parce que habituellement, ça va de soi. Il y a même besoin d'enfoncer le clou. Donc là, je crois qu'il y a une véritable interrogation. Alors, nous allons avoir donc un test, et derrière tout cela, nous voyons bien que c'est le système politique américain lui-même qui peut être secoué.
Dans quelques jours, va se tenir le sommet de Séoul du G20, où Nicolas Sarkozy va prendre la présidence de ce G20 pour une année. Il va donc rencontrer Barack Obama, comme tous les autres chefs d'État membres de ce G20. Barack Obama a joué un rôle, incontestablement, dans la constitution et dans l'existence, le travail du G20. Aujourd'hui, est-ce que son affaiblissement peut avoir des conséquences sur son fonctionnement ?
Bien, le G20 n'est en tout cas pas un G2, c'est pas un G3. Je pense que les États-Unis, en tout cas, ne sont plus, à eux tout seuls, évidemment, en mesure de décider. Et ça rejoint les observations antérieures sur une perception de déclin. Donc, les États-Unis sont tout de même toujours la principale puissance, bien entendu, mais enfin, quand même, obligés de composer avec les autres. Alors, d'abord, ce G20 était très bien préparé. J'ai pas mal fréquenté la Corée ces dernières années et je connais les personnalités du côté coréen qui ont travaillé à ce G20. C'est un groupe remarquable. Ils ont extrêmement bien travaillé. Il faut le dire au passage parce que c'est la première fois, n'est-ce pas, qu'un pays
hors le
G8,
oui,
en fait, ou même le G7 d'ailleurs, oui. L'ancien G7 prend comme ça le taureau à bras les cornes. Alors, je crois que ce G20 a été très bien préparé et tout de même, les membres du G20 ont tous, me semble-t-il, conscience de la fragilité du système international dans son ensemble. Et donc, je pense qu'on a des chances de voir prévaloir des solutions coopératives, des solutions qui renforcent plutôt la confiance dans le maintien d'un système international ouvert, et notamment dans le domaine monétaire ou dans le domaine évidemment commercial avec les risques de protectionnisme, etc. Donc là, je suis relativement confiant. Ce qui m'inquiète davantage, c'est l'efficacité du G20, parce que c'est tout de même une institution fragile, une institution qui a déjà donné des résultats positifs, assurément, mais enfin qui est tout de même très fragile. Et on sent bien que la gouvernance mondiale, c'est le sujet de ma conférence de Marrakech, la World Policy Conference, cette gouvernance mondiale, elle est absolument fondamentale. Dans un monde de plus en plus interdépendant doit avoir des processus de coordination, de régulation à la limite. Mais en même temps, on sent combien c'est fragile. Et c'est pourquoi nous devons être extrêmement attentifs, en effet, à ce qui va se passer à Séoul. Et tout n'est pas joué d'avance, bien sûr.
Non, naturellement. Mais est-ce que pour Nicolas Sarkozy, cette présidence va se révéler un moment important ?
Je pense qu'elle va se révéler un moment important parce qu'elle se situe à un moment important. Et également parce qu'il va y consacrer toute son énergie. Et cela, il ne faut pas en douter. Là où je suis personnellement moins sûr, mais c'est un autre sujet, c'est l'impact de cela en termes de politique intérieure française.
Oui,
mais
oui.
Je crois que c'est hors sujet, si je veux dire, par rapport à notre conversation d'aujourd'hui. Alors, Nicolas Sarkozy a choisi un certain nombre de priorités sur le problème de la monnaie, le système monétaire international, sur les questions de politique de matières premières, les cours des matières premières, et puis également la réforme du système de l'ONU. Ce sont trois sujets extrêmement difficiles qu'il a choisis. Et la question, évidemment, qui va se poser très rapidement, c'est celle de ce qu'on appelle en franglais les délivrables, c'est-à-dire quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on pourra considérer dans chacun de ces domaines comme un succès ou comme un échec.
Oui, oui.
Mais enfin, ces trois sujets sont en effet, surtout le premier et le troisième, sont très importants. Sur le second, sur les matières premières, nous connaissons bien pas toutes les tentatives ou les rêves qu'il y a eu depuis des décennies de contrôler, de réguler les cours des matières premières. Il est vrai que dans certains domaines, comme les produits dérivés de matières premières, etc., il peut y avoir des choses à faire. Mais enfin, tout cela reste encore à dessiner.
Alors, de ce sommet de Séoul qui va avoir lieu, j'aimerais que nous nous tournions maintenant vers un sommet qui, lui, vient d'avoir lieu, qui débouchera aussi sur les conversations de Lisbonne, sur les priorités à venir de l'Alliance Atlantique, mais à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, Français et Anglais viennent donc de prendre une initiative tout à fait forte, certes dans le prolongement des conversations qui avaient déjà eu lieu à Saint-Malo il y a 12 ans, mais une initiative très forte qui, certes, s'explique par la nécessité pour les deux partenaires de baisser leur budget militaire, mais cela va, me semble-t-il, au-delà, puisqu'il s'agit d'une part de faire bénéficier chacun des partenaires de son avance en matière technologique et notamment nucléaire, dans le domaine des essais pour les uns, dans le domaine de la fabrication pour les autres. D'autre part, de constituer une force d'action rapide qui puisse être commandée par l'un ou l'autre, de mettre des matériels au service de l'un ou l'autre. Alors, ce que j'aimerais te demander, c'est quelle est la philosophie qui gouverne cette nouvelle entente ?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est dans le prolongement de Saint-Malo. Je crois que c'est quelque chose de très différent. Je crois qu'il n'y a pas de grande vision stratégique derrière cela. Ça pourrait déboucher sur quelque chose ayant un fort contenu stratégique, mais je crois que le mot qui caractérise le mieux ce qui est entrepris là, c'est le mot « pragmatisme ». Et quels sont les fondements, par conséquent, de ce pragmatisme ? Premièrement, la constatation que depuis bien des décennies maintenant, on pourrait même remonter jusqu'à Suez, les Français et les Britanniques sont du même côté dans pratiquement toutes les affaires internationales où les deux pays sont amenés à intervenir. Donc nous sommes dans une situation de politique sur le plan international qui est profondément différente de tout ce que nous avons connu dans le passé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que force est de constater qu'il n'y a que deux, hélas, même pas trois, deux pays en Europe qui ont encore une certaine volonté en matière militaire, et qui sont la France et la Grande-Bretagne. Je dis hélas pas trois, parce qu'évidemment on pourrait songer à l'Allemagne, mais c'est un sujet en soi, mais l'Allemagne n'est fondamentalement pas intéressée, et si elle conserve des forces militaires, c'est davantage, disons, dans une vision de politique intérieure, etc., que de politique internationale à proprement parler. Donc ça, c'est le deuxième point. Ce qui veut dire que si la France et la Grande-Bretagne ne font pas en sorte de maintenir des capacités suffisantes, eh bien, il n'y aura plus rien en Europe. Et ça aurait des conséquences à terme absolument considérables.
Là, oui, des conséquences stratégiques.
Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on sait bien en matière militaire que les capacités d'agir ne sont pas simplement une fonction continue des capacités matérielles. Il y a des seuils de discontinuité. Il y a des seuils, et c'est vrai en particulier en matière nucléaire, mais c'est vrai également dans les armements ou dans les capacités conventionnelles, il y a des seuils, si on descend au-dessous, on casse tout. Donc il y a un véritable problème de maintien à des niveaux significatifs. Or, et c'est là qu'interviennent les considérations financières, et le travail qui est entrepris là est un travail fabuleusement pragmatique, puisqu'on regarde catégorie par catégorie, dans un très grand luxe de détails sur les porte-avions, les aéronefs, etc., les matériels de toutes sortes, on regarde ce qu'on peut faire ensemble en matière de pièces détachées, de plateformes communes, et ainsi de suite. Et en effet, on constitue une force d'intervention, mais qui est beaucoup plus souple que ce qu'on a fait avec les Allemands. Là encore, on est dans des considérations beaucoup plus pragmatiques, toujours avec cette idée qu'en pratique, on est pratiquement toujours, d'ailleurs, amené à intervenir, on est du même côté, et puis si l'un veut intervenir et pas l'autre, ça doit pouvoir, en tout cas, fonctionner. Alors, je crois que ce travail donc extraordinairement pragmatique va avoir deux effets. L'un, c'est en effet de permettre un maintien de capacités qui donneront à l'Europe le minimum d'existence qu'elle doit avoir en matière militaire, en matière de défense et de capacité d'intervention, de projection de la puissance, disons, dans les deux prochaines décennies. Et le deuxième effet, c'est que cela peut entraîner, mais d'une manière naturelle, des conséquences potentiellement considérables ayant une véritable signification stratégique. Mais je crois qu'il ne faut pas dire qu'il y a un grand plan stratégique immédiat. Et du reste, Cameron s'est empressé de le souligner parce que, et c'est mon dernier point, il y a asymétrie des opinions publiques sur ce sujet. Bon, comme toujours en France, l'opinion publique est assez passive sur ces grandes questions militaires, stratégiques et au fond le président de la République.
Elle est passive et en même temps elle adhère finalement.
Oui, mais je veux dire que ce ne sont pas depuis la question du retrait de la France de l'OTAN en 1966, les Français généralement ils suivent leur leader, ils suivent le président de la République. Mais ce n'est pas pareil en Grande-Bretagne. Et la presse britannique, en particulier les tabloïds, se sont déchaînés contre les Français. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut véritablement mettre en lumière le caractère pragmatique de cette démarche.
Enfin, donc, visite officielle de 3 jours du président chinois en France, après 2 ans pendant lesquels, 2 ans qui nous séparent du moment où il y avait toute cette polémique avec le Dalai Lama, les droits de l'homme, etc. La France s'est mise en 4 pour bien recevoir le président chinois. Je pense qu'elle a raison. Néanmoins, il y a ici et là, dans les milieux intellectuels, des remarques à ce sujet. Est-ce que ces remarques ont une quelconque influence ou une quelconque valeur en face des relations que nous devons établir avec la Chine ?
Il y a une certaine tendance dans notre pays à confondre les combats d'idées et le fond des relations internationales. Et là, nous sommes dans les relations internationale. Et la France, bien entendu, doit renforcer ses relations avec la Chine. Cela me paraît évident, à la fois pour des intérêts relativement précis et étroits, comme les intérêts économiques et commerciaux, ce qui n'est pas négligeable, mais également pour qu'on puisse travailler ensemble de façon constructive au sein du G20 et des autres institutions internationales. Alors je crois que les intellectuels, les défenseurs de les gens qui font profession au sein d'ONG, etc., défendent les droits de l'homme, ils font leur travail et c'est très bien, mais ça n'est pas le fond des relations internationales.
Merci Thierry de Montbrial, et donc nous nous retrouvons pour une prochaine édition de cet éclairage sur l'actualité internationale.